La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'aborder aujourd'hui le rapport sur les pratiques culturelles des Français du point de vue des musées et des établissements patrimoniaux. J'avais reçu Malik Diallo au titre des bibliothèques et donc je suis ravi d'accueillir Georges Magnier, conservateur du patrimoine et directeur des musées de Reims. Bonjour Georges Magnier.
Bonjour Thibault.
Donc voilà, ravi de vous accueillir. J'avais remarqué votre chronique sur LinkedIn qui évoquait justement ce rapport décennal sur les pratiques culturelles des Français, lequel, on va tout de suite rentrer dans le dur, si vous voulez bien, souligner donc un tassement de la fréquentation, un fossé générationnel, un problème éventuellement de démocratisation culturelle pour les publics des musées. Donc c'était très intéressant, vous discutez de ces postulats-là. Et puis surtout, vous offrez un contrepoint qui est intéressant. Donc c'était, je pense, tout à fait intéressant de vous avoir. Mais tout d'abord, si vous le permettez, je voulais vous poser une petite question d'actualité. Crise sanitaire oblige, je voulais savoir comment ça se passe pour les musées de Reims de votre côté, avec une prochaine réouverture, je l'imagine. Et surtout, une question que je pose un petit peu à tous les responsables d'établissements culturels. Est-ce que vous nourrissez des craintes sur la capacité de nos établissements à retrouver finalement facilement leur public fréquentant?
Alors pour ce qui est de la situation à Reims, comme évidemment la totalité des institutions culturelles, nous avons connu une seconde fermeture. Nous allons rouvrir effectivement suite aux dernières annonces du président de la République le 16 décembre pour ce qui nous concerne. Sur le fond, je ne suis pas vraiment inquiet sur la capacité de nos institutions et des musées en particulier à retrouver leur public. Pour deux raisons. D'abord parce que globalement, j'ai été frappé, et je crois qu'on l'a beaucoup été, par l'inventivité aussi de nos institutions culturelles pendant la fermeture, qui sont vraiment arrivées à réinventer de nouveaux liens, de nouvelles manières de garder la relation avec nos visiteurs, et peut-être parfois d'ailleurs de se faire connaître d'autres visiteurs par les canaux numériques. Donc le lien ne s'est pas rompu. Et puis on a eu quand même l'expérience du premier déconfinement, où on a vu que finalement, sauf pour les institutions qui étaient très dépendantes effectivement des touristes, c'est le cas des grands musées parisiens notamment, on a quand même eu cette capacité à récupérer des visiteurs, et notamment des visiteurs français. Et pour certains, c'était le cas des musées de Reims, même d'avoir de meilleurs chiffres de fréquentation à l'été 2020 qu'à l'été 2019. Donc il n'y a pas forcément, je pense, d'inquiétude majeure à avoir suite à ces événements. Par contre, c'est vrai que ça implique pour nous tous un vrai travail, un gros travail de remobilisation, de communication, de recalage de nos propositions, de nos expositions notamment dans les musées,
ouais.
Et puis de faire connaître à nouveau l'offre qu'on va remettre en route notamment en 2021.
Alors, le rapport que nous évoquons pointe donc des chiffres qui, on va le dire clairement, sont assez peu favorables pour les musées. Alors, il y a différents chiffres dont on peut discuter, mais le pourcentage de Français qui se sont rendus au moins une fois dans l'année dans un musée ou dans une expo en 2018 est revenu quasiment à son niveau de 1973. Que faut-il retenir, Georges Magnier, selon vous, de cette fréquentation un petit peu stagnante?
Je trouve d'abord que cet indicateur, pour succinct qu'il soit, puisque finalement il ne pose qu'une seule question, a justement la force aussi de sa simplicité, c'est-à-dire que la question elle est simple. On demande effectivement à des Français, comme vous l'avez rappelé, s'ils se sont rendus dans un musée, quel qu'il soit d'ailleurs, quelle que soit sa nature et où qu'il soit, ça peut être en France ou à l'étranger, et finalement ces Français, à 10 années d'écart environ à chaque fois, ont une réponse assez simple aussi, oui ou non. Pour le coup, ça pose évidemment beaucoup de questions, les résultats, mais au moins le constat, lui, est assez simple. On voit effectivement qu'il y a une stagnation. Alors que je nuancerais, qu'on nuance évidemment, c'est clairement qu'au cours de ces dernières décennies, il y a eu une augmentation de la fréquentation des musées, qui est très claire et qui est massive même, avec un palier à partir des années 2010. Et donc ça veut dire que si plus de Français ne sont pas allés dans les musées, ceux qui allaient déjà, eux, ont intensifié leur pratique. Donc ça, c'est un point qui est quand même positif. Ça veut dire que les musées sont en capacité, par leur renouvellement, par toutes les rénovations qu'on a connues, par les programmations très dynamiques, d'expositions temporaires, les nouvelles actions culturelles, ont été en capacité de fidéliser le public qui les fréquentait déjà globalement. Donc ça, c'est quand même positif. Et puis bon, après, c'est difficile à mesurer, mais on sait quand même tous que depuis les années 80-90, l'offre culturelle s'est assez considérablement diversifiée et d'une certaine manière, les musées, pour le dire avec un langage un peu différent de la fonction publique, mais enfin ont quand même confirmé leur part de marché, on va dire, dans un contexte qui est lui-même très évolutif. Donc ce qui, moi, m'a interpellé, et c'était un peu l'objet de ma petite réflexion, c'est finalement pas tant le niveau absolu un tiers des Français, un petit tiers des Français qui va dans les musées, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, ça peut se discuter, il y a évidemment sans doute une marge de progression, mais voilà, qu'est-ce qui serait le bon chiffre? Est-ce que c'est 30, 35, 40, 45% des Français qui vont au moins une fois au musée dans l'année? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est effectivement plus préoccupant, hein, ce sont les dynamiques, les évolutions que pointe cette étude,
oui.
Avec deux grosses évolutions, une sur le profil sociologique des visiteurs qui tend à s'uniformiser et plutôt à exclure de plus en plus les visiteurs les plus modestes, socialement parlant, et puis effectivement un décrochage des plus jeunes générations. C'est ça, à mon sens, les deux grands enseignements de cette étude.
Oui, justement, alors venons-y, hein, c'est effectivement cette lancinante question, mais qui se pose finalement, je pense, à tous les établissements culturels, les bibliothèques, ils sont aussi... sensible à cette question, c'est effectivement, vous l'évoquiez, cette question de la démocratisation des publics. Alors, pourtant, les politiques publiques, vous l'évoquiez, elles se sont quand même étendues, diversifiées. Je pense à beaucoup d'efforts qui ont été faits pour la gratuité de certains musées, une politique d'exposition temporaire beaucoup plus dynamique que jadis, un recours aussi beaucoup plus important au numérique. Finalement, toutes ces actions n'ont pas été suffisantes pour élargir le socle des publics des musées. Comment on fait pour élargir ce socle-là? Et spécialement concernant les jeunes publics, comment on brise ce schéma d'une désaffection un petit peu des jeunes publics pour la fréquentation de nos équipements culturels?
Je crois que là pour le coup, alors autant on peut interroger effectivement si tout chiffre mérite d'être questionné, d'être mis dans son contexte. Là, pour le coup, il est incontestable. C'est qu'effectivement, on peut le prendre dans tous les sens, il y a effectivement un tassement de la diversité sociologique représentée parmi les visiteurs des musées. Ça, c'est très clair. Alors, encore une fois, je suppose évidemment qu'il faut replacer ça dans un contexte plus général. Les musées, comme les bibliothèques, sont aussi le reflet des évolutions sociales qui sont en cours. Et les analystes ou les dernières crises d'ailleurs qu'on a traversées ont bien souligné la fragmentation quand même croissante hein, sur un plan social, aussi une atomisation des pratiques culturelles. Donc tout ça évidemment se répercute aussi sur l'offre que nous pouvons avoir. Moi, ce qui me frappe finalement, c'est que incontestablement, les musées, que ce soit les plus grands ou les plus modestes, ont vraiment développé depuis 20 ans et même plus, hein, les années 90, une expertise remarquable souvent pour s'adresser au public qu'on appelle éloigné de la culture. Je crois qu'aujourd'hui, tous les musées, depuis le musée du Louvre jusqu'à des musées parfois très modestes, vont s'adresser aux résidents d'EHPAD, au public carcéral, au public en milieu hospitalier, et vraiment ont tous développé une vraie expertise et une vraie implication là-dedans. Évidemment, ces publics-là, ils sont extrêmement précieux, symboliquement, et aussi parce que, en tant que service public, on se doit de le porter à ceux qui ne peuvent pas y accéder facilement. Néanmoins, on perçoit bien aussi qu'on est là sur des jauges qui sont extrêmement faibles. Et il me semble qu'un des vrais enjeux, c'est celui de la massification de ce type d'action. C'est-à-dire que on voit bien qu'on a nos publics acquis, ceux qui viennent, on a des publics très éloignés qu'on va chercher, mais avec des toutes petites jauges. Quand on intervient dans un milieu carcéral, c'est entre 5 et 8 personnes en général pour faire une petite conférence. C'est bien que pour les hôpitaux, on ne va pas toucher non plus beaucoup plus de personnes. Et donc, ces expériences qui sont extrêmement gratifiantes, je crois, pour nous tous, hein, au service des publics, ça investissent beaucoup, c'est des expériences humaines qui sont extrêmement, extrêmement riches, mais on voit bien qu'évidemment, statistiquement, ça ne peut pas avoir un effet réel. Et je crois que l'enjeu, c'est vraiment de se questionner sur finalement ce ventre mou d'un public que l'on pourrait conquérir, mais qui ne vient pas, qui sans doute n'est pas très loin de venir, mais qui n'a pas quand même ce petit déclic qui le fait venir, et qui représente sans doute, alors là encore, on ne peut pas le quantifier, c'est dur de quantifier un non-public, mais qui représente sans doute plusieurs points de pourcentage, voire peut-être plusieurs dizaines de pourcents également de plus pour nos musées. Et je crois vraiment qu'il y a vraiment cet enjeu-là de trouver les canaux, difficile, hein, mais c'est peut-être le défi qui se pose à nous maintenant, d'aller chercher un public qui n'est pas totalement éloigné et parfois plus facile à identifier, parce que c'est sûr que la population carcérale ou les personnes en hôpital, on sait où les trouver, on a des bons relais associatifs aussi parfois pour les toucher. Par contre, ce non-public qui est là, parfois autour de nos musées, mais qui n'y vient pas, lui, il est un peu plus difficile de le capter. Mais je pense quand même, on pourrait peut-être y revenir, mais qu'il y a des manières d'essayer de se rapprocher de lui quand même. Hein.
Oui, donc sans doute ce que vous pointez, on l'évoquait également avec Malik Diallo, hein, conservateur, directeur des bibliothèques de Rennes, lors de notre entretien, c'est que finalement, cette crise sanitaire n'est-elle pas en train de nous rappeler plus largement, encore une fois là aussi, à l'ensemble des établissements culturels, qu'il y a une demande sociale et qu'on a sans doute le capital symbolique pour investir plus fortement? C'est un peu ce que vous dites lorsque vous évoquez toutes ces actions hors les murs. Est-ce qu'on n'a pas vocation à intensifier, voilà, largement toutes ces actions hors les murs, et puis de façon générale, tout ce qui est la médiation aux pratiques artistiques?
Oui, il y a effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de points d'entrée différents. L'enjeu, c'est, me semble-t-il, d'arriver d'abord à toucher des publics qui ne viennent pas, bon, et qu'on n'identifie pas forcément aussi bien que, effectivement, les publics les plus éloignés. Et pour ça, je me dis vraiment que il y a peut-être un enjeu aussi pour nous, à, notamment nos services des publics, à se repositionner plus comme des animateurs d'un réseau que comme des faisants directement. Je veux dire par là qu'on a tous des moyens limités en matière de médiation notamment, y compris les musées les plus importants, et on sait que mener des actions en direct auprès de tous les publics que l'on veut viser peut être parfois extrêmement chronophage. Et je me dis qu'il faut vraiment essayer de trouver le moyen de toucher les publics que l'on veut sensibiliser à l'intérêt et à l'attrait des musées, et franchement nos musées peuvent apporter beaucoup, comme les institutions culturelles dans ces périodes de crise. Je citerai un exemple, mais que je trouve intéressant, une association que je connais un peu, qui est une implantation nationale, qui est l'association Culture du Cœur. Cette association, elle a pour concept de récupérer auprès des institutions culturelles des entrées, donc des places de spectacle, des entrées dans les musées notamment, et ensuite de les distribuer via les relais sociaux, que sont les maisons de quartier, toutes les associations d'action sociale, c'est-à-dire de s'appuyer finalement sur le réseau de ceux qui connaissent bien et finement le terrain. Et je pense que à mes yeux, un médiateur de musée a peut-être un effet qui sera décuplé s'il est placé en animation de ce type de réseau, c'est-à-dire connaître les présidents d'associations, aller faire la sensibilisation au sein des associations, mais confier ensuite à ces relais sociaux qui connaissent le terrain, la tâche finalement, de vendre l'attractivité de nos lieux culturels. Et je crois que c'est vraiment cet effet de levier aussi qu'il faut rechercher, parce que si on se place dans le faire directement nous-mêmes à chaque fois, on sent bien qu'évidemment, on n'arrivera jamais à avoir un résultat statistiquement mesurable, disons. Hein.
Oui, c'est très intéressant. L'exemple de Culture du Cœur est particulièrement édifiant. Moi, c'est effectivement une association avec laquelle j'avais travaillé aussi sur le territoire ardennais. C'est vraiment effectivement très, très important d'identifier ces partenaires qui vont aller chercher les publics éloignés de la fréquentation des lieux culturels. Hein. C'est une certitude. Georges Magnier, on arrive à la fin de cet entretien. Je voulais quand même vous interroger sur un point que vous évoquez dans votre billet, la nécessité d'une étude d'ampleur, mais qui serait dédiée vraiment spécifiquement aux pratiques muséales des Français. Finalement, on reste un peu sur notre faim avec ce rapport décennal. Quelle forme pourrait prendre une telle étude selon vous, et comment finalement décliner d'éventuelles retombées concrètes hein, de ce rapport sur des territoires qui sont par définition tous singuliers?
Je pense que l'intérêt d'un baromètre spécifiquement dédié au musée, comme peut-être à d'autres évidemment catégories d'institutions culturelles, serait vraiment intéressant pour objectiver un certain nombre de constats que l'on fait empiriquement, mais qu'on a parfois du mal à mesurer, et puis aussi bah voilà, pour identifier les marges d'action ou les points prioritaires, et ensuite surtout, en le faisant régulièrement, mesurer des évolutions. Il me semble que ce baromètre il pourrait s'intéresser à quelques points en particulier. D'abord, la dimension territoriale fine. C'est vrai que beaucoup d'études qui sont faites par les sociologues de la culture, par les muséologues, sont souvent intéressantes. Mais bon, elles ont quand même un tropisme qui accorde un poids extrêmement lourd aux très grands musées nationaux notamment, ce qui est intéressant, au regard évidemment du volume total des visiteurs qu'ils captent pour partie. Mais arriver à voir dans quelle mesure la dynamique ou les dynamiques que connaissent nos établissements peuvent varier assez sensiblement, et on le voit empiriquement, hein, la seule ville où la pratique de la visite du musée augmente, c'est Paris. Métropole par excellence. Dans le reste des territoires mesurés par l'étude du ministère de la Culture, ça diminue, mais on aimerait savoir, dans les métropoles intermédiaires, est-ce qu'on a aussi un mode de consommation des musées qui est plutôt proche de celui de Paris et donc en développement? Et finalement, à travers ça, on mesurerait quand même plus finement quelles sont les dynamiques qui, a priori, ne sont pas les mêmes entre des territoires ruraux, des territoires périurbains ou des territoires métropolisés. Hein. Et ça, je pense que c'est un enjeu de réflexion très intéressant. Et puis l'autre sujet, c'est quand même la grande difficulté qu'on a, chaque musée, à faire des enquêtes statistiques sur les non-publics. C'est très difficile. Autant questionner ceux qui viennent, on peut le faire. Questionner ponctuellement ceux auxquels on a accès par des associations, on peut le faire. Mais ces non-publics qui sont ceux que l'on veut conquérir et qui sont peut-être l'enjeu essentiel de ces prochaines années, on ne les connaît pas, on ne sait pas forcément ce qu'ils veulent, exactement pourquoi ils viennent ou pourquoi ils ne viennent pas, en l'occurrence. Et seule une enquête d'ampleur professionnelle menée à un niveau national, avec évidemment des échantillons représentatifs dans différents espaces du territoire français, pourra nous donner ces réponses qui, en tout cas pour ma part, seraient extrêmement précieuses pour alimenter notre réflexion et puis une stratégie d'action ensuite. Hein.
Bon, écoutez, Georges Magnier, merci beaucoup. Ben, la balle est dans le camp de la direction du patrimoine, hein, du ministère de la Culture, pour mener à bien cette enquête. J'ai noté, je pense avec vous, que la parole présidentielle peut prenait cas, cette fois-ci, des établissements culturels, donc ça me semble être quelque chose d'important. On a parlé vraiment ouvertement pour la première fois de la réouverture des établissements culturels, même si la focale a beaucoup été placée sur les libraires et les bibliothèques, hein, c'était quand même très important d'avoir le point de vue du patrimoine et des musée. Donc merci mille fois d'avoir accepté notre invitation.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.